crois que si c'est important, c'est parce que Dieu a voulu, dans les 10 commandements qu'il nous a donnés, donc c'est la loi, non pas de Moïse, mais c'est la loi de Dieu, hein. La loi de Moïse, c'est Deutéronome, tandis que la loi de Dieu, c'est Exode, hein. C'est sur le Sinaï, c'est Dieu qui a écrit avec ses propres doigts. Donc si c'est Dieu qui a écrit, est-ce qu'on va le prendre à la légère, hein? Même si c'est Moïse qui l'écrit, il ne faut pas le prendre à la légère. Mais Dieu, directement Dieu a écrit dans les tables de pierre. Et donc, ce qu'il a dit, c'est que le premier commandement, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Autrement dit, par Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. S'il l'a dit, c'est que c'est important. Amen. Et le deuxième commandement, c'est quoi? Tiens, Judith. Tu te rappelles du deuxième commandement? Pardon? Tu ne feras pas de représentation devant. C'est-à-dire que il n'y a qu'un seul Dieu, tu ne te feras pas de représentation. Est-ce que, à mon avis, si Dieu a dit ça, il y a une raison? Et en plus, c'est le deuxième commandement. Donc, vous voyez, c'est dans l'ordre des commandements, parce qu'après, il y en a d'autres, hein. C'est le plus important, parce que c'est celui que nous risquons le plus de rencontrer. Et c'est pour ça que l'idolâtrie est le problème numéro un du chrétien. Des hommes en général, mais du chrétien en particulier. Parce que le chrétien, comme cet après-midi, on va le faire, il fait une alliance au travers du baptême. L'ennemi va tout faire pour détruire cette alliance. C'est ça son boulot. Il faut le savoir. Vous voyez, un ennemi, il faut savoir à qui on a affaire. Et quelle est sa stratégie? Sa stratégie, c'est de vous faire prendre le baptême, qui fait partie du salut, hein. Jésus a dit, la mission, c'est vous apporterez le témoignage dans toutes les nations et vous baptiserez, parce que le baptême, on le verra cet après-midi, c'est l'alliance qu'une personne fait avec le Seigneur. Et l'ennemi va tout faire pour la détruire. Il va tout faire pour vous corrompre, de manière à ce que vous ne gardiez pas cette alliance. Une fois que vous l'avez prise, vous pouvez la corrompre. Donc, ça fait partie d'une vision de la réalité. Quelle est la vision de la réalité que vous avez? Est-ce que vous, non, je sais que non, vous ne croyez pas que ce qui existe n'est que visible, hein? Vous n'êtes pas de ceux qui sont rationalistes au point de dire je crois que ce que je vois. J'espère. Parce que même votre chien, il a des réalités que vous ne connaissez pas. Les infrasons, nous, on ne les entend pas. Pourtant, ils existent. Okay. Vous voyez, donc, on ne peut pas dire je crois que ce que je vois. Déjà, le ressenti va un peu plus loin que simplement la vue. Mais tout... Donc, cette année, nous avons un thème qui s'appelle le thème pastoral que nous creusons pour avoir une vision commune. Hein, bâtissons le royaume de Dieu dans le Montois avec une vision commune. Quelle est la vision commune? Déjà, il faut que la vision commune soit la vision de la réalité. Parce que la réalité, c'est la vérité. Quand je dis réalité, vérité, c'est kiff-kiff. Jésus a dit, je suis la vérité. Jésus est le règne, il règne sur toute création, sur toute créature, sur toute chose. Il est l'alpha, l'oméga, il est le centre de toute chose, Colossiens 1, 27. Et si nous voulons être basés sur la vérité, nous devons avoir une bonne vision de la réalité qui nous entoure, et ne pas être naïf. Un chrétien naïf est un chrétien qui est facilement idolâtre et qui tombe dans l'idolâtrie parce que c'est ce qui est le danger le numéro un pour le chrétien. Alors, pour être très simple, et vous allez voir que plus simple je meurs, je vais simplement vous rappeler la réalité dans laquelle nous sommes, hein. Il y a Dieu et les anges qui lui sont fidèles. OK? Sans rentrer dans le détail, donc Dieu, Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, bien sûr, et des anges qui sont avec lui, ils sont dans le troisième ciel, et pas dans le septième, comme le disent les musulmans. OK? Ça, c'est la Bible. Le deuxième niveau de réalité que Dieu a créé, c'est Lucifer, ou Satan, hein, ça c'était le premier nom qu'il a reçu dans Ésaïe, plus les princes. Les princes de ténèbres qui sont dans le deuxième ciel. Ok? parce qu'ils ont été chassés du ciel, mais ils sont dans une sphère où ils peuvent influencer les nations, influencer le monde, et ce sont des princes. Ce sont, et ça nous avons cette révélation, entre autres dans le livre de Daniel, et bien dans d'autres livres de la Bible. Le troisième niveau de réalité, ce sont les démons. Okay ? Les démons, ce sont des anges qui étaient dans le deuxième ciel, qui sont déchus, parce qu'ils n'ont pas respecté des droits, parce qu'il y a des droits dans tous les niveaux de réalité, des droits et des devoirs. Et ces droits, ils ne l'ont pas respecté, le deuxième ciel, et ils sont obligés d'errer dans le premier ciel. Et ils ont le droit d'influencer directement les personnes. Ce sont des princes, ce sont simplement des êtres qui manifestent un démon de colère, ils manifestent une colère, ils se nourrissent de choses mauvaises qui sont dans notre chair. Donc un démon de colère va manifester une colère, un démon de luxure va manifester de la luxure, etc. etc. Un démon de rapine, de cupidité va manifester. Et c'est pour ça que n'entrez jamais dans des enseignements démonologiques ou d'exorcisme qui disent il faut demander au démon qui il est. Ne rentrez pas là-dedans, parce que vous allez rentrer dans le mensonge. Simplement, si la personne manifeste une colère, vous dites colère, tu sors, c'est tout, et le démon il s'en va. Vous voyez, c'est très simple. Donc premier ciel. Au niveau de la terre, il y a les humains, et toute la création. Donc ça, c'est au niveau de la terre. Et dans le sous-sol, dans sous terre, il nous est dit que, donc ça c'est dans le Tartare, il y a des anges qui sont déchus mais qui sont enchaînés. Alors il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus dans la Bible. Vous en trouverez d'autres, mais je préfère vous dire de ne pas chercher dans d'autres livres, ça ne sert à rien, puisque Dieu a prévu de ne pas nous en dire plus. Ce n'est pas la peine d'en dire plus, simplement il faut savoir qu'ils sont enchaînés. Et Jésus les a visités, et comme ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas nous nuire, donc on ne s'en occupe pas. Mais ils existent. Donc ça, c'est 5 niveaux de réalité qui nous sont décrits dans la Bible. Et nous, il nous faut positionner par rapport à ces 5 niveaux. Et en fait, il y a 3 catégories, alors je les appelle A, B et C, 3 catégories de croyants. Parce que je vais vous dire quelque chose, je suis sûr que vous en êtes persuadé. Sur la terre, tous sont croyants, même les athées. Parce que on ne peut pas vivre sans croire. Si vous voulez, si moi je prends un feu rouge, et si je ne crois pas que la personne va s'arrêter au feu rouge parce que moi je suis au vert, eh bien je ne sortirai jamais de chez moi. Or il se trouve qu'il y en a qui passent au rouge. Surtout la nuit, faites attention, parce qu'il y en a qui grillent les feux rouges et vous pouvez avoir une collision et mourir. Donc il faut la foi dans toutes les situations. Donc c'est de la folie de dire athée, parce que ça n'a pas de sens. Parce que la foi, donc n'importe quoi, une idéologie, une religion, peu importe, ça donne du sens. Ça nous permet de sortir de chez moi et pas dire « Ah, j'ai peur de ça parce que je vais passer au feu vert, mais l'autre il va passer quand même, etc. Ben, » qu'est-ce que je fais? Ça va complètement m'angoisser et puis je vais rester chez moi et puis terminé, il n'y a plus d'activité, je suis mort. Vous voyez, donc il faut du sens. Donc tout le monde croit quelque chose. Il y en a qui croient l'inverse. N'hésitez pas, je discuterai avec vous à la fin du culte. C'est pas un problème. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez, mais je peux vous dire qu'il n'y a personne. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire qu'il ne croit pas à quelque chose. Donc, il y a 3 types de croyants. 3 types de croyants. Et il n'y en a pas 4. Par contre, il y a une infinité de mélanges de tout ça. Vous voyez ? Il y a 3 types de croyances, mais une infinité de, comment on appelle ça, des combinaisons. Voilà. Alors, la première forme de croyant, c'est ceux qui, par rapport à ce que j'ai dit ici, qui croient en Dieu seul. Donc ce sont les confessants. On appelle ça les confessants. C'est un terme qui a été inventé par les évangéliques en 1848. Pas 1948, 1848. Où le mouvement évangélique mondial a été créé suite à la dérive du protestantisme libéral. Qui a cru à la science au point d'être pire que les catholiques, puisqu'ils ont renié Jésus-Christ ressuscité. Ils disent, non, c'est de la fable, c'est du mythe, ça n'existe pas, Jésus n'est jamais ressuscité, ou voilà. Mais le protestantisme, vous voyez, c'est pas mieux que les catholiques. Hein. Quand on est dans l'erreur, on s'enfonce jusqu'au cou. Et c'est pour ça qu'il y a eu Vatican I, pas Vatican II. Vatican I a été fait pour combattre les erreurs du protestantisme. On marche sur la tête, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, les confessants, ceux qui confessent Jésus-Christ, ceux qui confessent le Dieu unique, Père, Fils, Saint-Esprit, le Dieu unique. Ça, c'est les confessants. Les confessants, ils ont comme emblème la croix. Hein? S'il n'y a pas la croix, Paul a dit, s'il n'y a pas la croix, il n'y a plus de christianisme. Il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de libération. Les péchés ne peuvent plus être ôtés, puisque l'agneau de Dieu est mort à la croix pour nos péchés. Amen. Donc, c'est la croix. Hein? Et là, la particularité ici, si on revient dans la réalité, c'est qu'on a un ciel ouvert. Ouvert. Pourquoi ouvert? Parce qu'il n'y a pas de nuages. Aujourd'hui, il n'est pas ouvert, il est couvert. Mais quand il est ouvert, vous avez le soleil. Okay? Eh ben, le chrétien confessant, s'il n'est basé que sur la croix, et c'est qu'il vit de la croix, c'est-à-dire de la repentance, pardon des péchés et de la confession de Jésus-Christ, le ciel est ouvert. Vous voulez avoir un ciel ouvert? Eh bien, il faut être confessant de Jésus-Christ partout où vous êtes, au travail, à l'école, chez vous, sur votre couche, partout, c'est confesser Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est vainqueur. Et le Père a dit, il mettra tous les ennemis sous les pieds de Jésus, pas sous tes pieds à toi. Sous les pieds de Jésus, vous voyez. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui confessent, ah, mais je mets Satan sous mes pieds. Faites jamais ça, jamais ça. C'est la pire chose que puisse vous arriver de faire ça. Non, il met les ennemis sous les pieds de Jésus. Parce que là, vous ne pouvez rien contre Lucifer. Hein. N'essayez pas. Donc là, on est dans la première catégorie de confessants. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont des idoles dans leur cœur. Je vous avais dit la dernière fois, j'avais pris ce verset, où dans Ézéchiel, il dit, ils ont les idoles dans leur cœur. Amen. Et c'est de ça qu'on parle en ce moment, les idoles dans leur cœur. Quand on a une idole dans le cœur, eh bien, c'est que l'idole n'est rien. Hein, l'idole n'est rien. Mais c'est les démons qui sont derrière. Okay. Donc, dans cette première catégorie, on communie avec des démons. Là, je fais référence à Paul dans 1 Corinthiens 10. L'idole n'est rien, mais les démons sont importants. Donc, les démons peuvent nous chevaucher. Hein? Ils peuvent nous chevaucher, si ce n'est pas d'entrée. Et là, on est dans un ciel couvert. Couvert. Donc, il y a des nuages. Hein? Des nuages qui font qu'à un moment donné, on est dans le doute, on ne sait plus, etc. Parce que cette influence mauvaise nous fait douter, nous fait rentrer dans l'incrédulité, enfin tout un tas de choses. Et donc, il faut sortir de là. Et donc, il faut sortir de l'idolâtrie pour revenir au premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, etc. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que Dieu ne peut pas supporter d'autres dieux dans la mesure où ils ne sont pas des dieux, ce sont des démons. Voyez. Donc, Dieu ne communique jamais avec des démons. Okay. Or nous avons la capacité de communier avec des démons, et c'est là le risque de l'idolâtrie, c'est ce qui produit directement un ciel couvert. La troisième catégorie, ce sont des idoles ouvertes, pas dans le cœur, mais ouvertes, c'est-à-dire qu'ils sont adorés directement, et ça c'est l'astrologie a commencé en Mésopotamie, là où Abraham a vécu, hein. Et donc on adore le soleil, la lune, les étoiles, etc. Et on prétend que ces astres aient une influence sur nous, alors ça c'est pas encore trop grave, mais qui conduisent notre destinée au point d'être complètement esclaves de la destinée. François Mitterrand, qui était un grand initié, très grand initié, il ne signait des contrats que lorsque Elisabeth Tissier lui donnait des dates en disant tu peux signer là, là, là. Il était complètement conditionné. C'était notre président de la République. Quand on est dans l'astrologie totalement, hein, au point de les adorer directement, eh bien, on est sous le contrôle de Lucifer et de ses princes. Et là, c'est grave parce que là, c'est un ciel fermé. Là, c'est un ciel fermé, c'est un ciel d'airain, de fer. Là, Dieu ne peut plus du tout participer à ce genre de choses. Ézéchiel, je vous l'ai lu la dernière fois ce passage, Ézéchiel a été l'objet d'une vision céleste où il a été carrément transporté. On appelle ça du transport astral, du transport, enfin c'est pas le transport astral, c'est occulte, mais le transport par l'esprit. C'est-à-dire qu'il a été pris carrément de Babylone et l'esprit l'a amené directement sur le temple. C'est des choses très rares, mais ça arrive. Et là, il a vu quoi? Il a vu l'adoration des astres. Les anciens, ils adoraient les astres. Ils adoraient la lune, le soleil, les étoiles, les serpents, toutes sortes de reptiles et tout ça. Et c'est ce qui se fait à Paris en ce moment. Donc on est dans la ville lumière de Lucifer. Il faut le savoir. C'est pour ça que le ciel est d'airain. C'est pour ça que tous les missionnaires qui viennent en France, ils disent « ça me chappe ». Bon, c'est une réalité. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais nos dirigeants, ils sont en grande partie dans l'astrologie. C'est d'ailleurs un pasteur africain qui me l'a dit. Il a dit « vous savez même pas que vos premiers ministres viennent en Afrique avec des avions privés pour prendre, s'ils ont des décisions à prendre, et puis ils s'en vont. Vous êtes au courant de rien. Les journaux ne parlent pas, les Parisiens ne parlent pas. Hein. » Voilà. Mais c'est ce qui se passe. Donc, vous voyez, il faut être conscient des réalités. Des réalités, il ne faut pas être naïf. Et là, on voit dans Ézéchiel, au chapitre 18, je crois, si je ne me trompe pas, que Dieu lui montre que l'astrologie et l'adoration de ces puissances et de ces princes de ténèbres est tellement horrible que l'Esprit de Dieu n'est plus dans le temple. Eux, ils pensent que l'Esprit est dans le temple. L'Esprit, il est parti sur une autre montagne. Et eux, ils étaient là, pensant adorer Dieu, Dieu d'Israël. En fait, il n'était plus là. Il n'y avait que les princes de ténèbres qui étaient là. Donc, on adore Lucifer sans même le savoir. Ça, c'est grave. Et pourquoi? Parce que Dieu dit, à un moment donné, quand c'est à son comble, il dit, eh bien, je les laisse à leur propre adoration. C'est-à-dire, Dieu les laisse. Et ça, c'est le pire, quand Dieu nous laisse. N'arrivez jamais à un point où Dieu vous laisse. C'est pour ça qu'il ne faut pas franchir des étapes, déjà de là à là. Ça, c'est la religion qui entretient ça. La religion, et là, c'est l'initiation. Les maîtres qui vous initient. Alors, faites attention, sur Internet, il y a beaucoup d'initiations. Et si vous cliquez, des choses comme ça, c'est votre curiosité qui va vous emmener là. Et là, méfiez-vous. Hein, parce que jusqu'à présent, c'était fermé, des cercles fermés. Maintenant, c'est des cercles ouverts. Depuis 1975, on appelle le nouvel âge, l'âge du Verseau. Toutes ces choses sont ouvertes. Vous pouvez y accéder. Mais si jamais vous accédez là, c'est l'irréversible qui vous attend. Donc, ne faites pas ça. Mais par contre, les chrétiens évangéliques qui sont là, qui ont pris leur baptême, ils peuvent tomber là, facilement. Ça, c'est la religion. Ici, on a des rites, on a des cérémonies, c'est voilà, des cérémonies, des choses comme ça, hein, qui sont tout simplement les mêmes enseignements là, sauf qu'on les appelle exotériques. Exo, ça veut dire extérieur, hein, mais qui signifie les choses ésotériques. Les choses ésotériques, c'est... On vous explique exactement comment vous pouvez entrer en communion, ça s'appelle la théurgie. C'est de la magie théurgique, et l'autre c'est de la magie rituelle, cérémonielle. Et toutes les religions sont basées sur des magies cérémonielles qui sont ici, et donc ils attirent au travers des l'idolâtrie forcément des ciels fermés. C'est-à-dire qu'ici il y a des gens, quand les nuages s'en vont, ils peuvent recevoir et être en communion avec Dieu, c'est pas un problème. Donc ici c'est possible, ici ça ne l'est plus. Et je sais que Mitterrand, à la fin de sa vie, il était complètement obsédé. Il ne savait plus quoi faire de sa vie. Et il a fait venir tous les astrologues, tout le monde, y compris des chrétiens, parce qu'il était complètement perdu. Il ne savait plus à quoi se donner. Il a dit vanité des vanités à son meilleur ami qu'il avait avant de mourir. Et là, vous êtes totalement dans le vrai, le faux, etc. C'est fait pour ça. Mais ici, la religion entretient eh bien, les idoles du cœur et nous tomber par des rites, des cérémonies. C'est pourquoi nous ne voulons pas de rites. Mais ce n'est pas parce que nous ne voulons pas de rites qu'il n'y a pas de rites. Hein. On peut très bien faire un rite sans vouloir. Mais ce que nous voulons, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est la communion avec Dieu. C'est un ciel ouvert. Amen. Et pour ça, c'est à nous de travailler. Ce n'est pas l'Église avec un grand E. C'est chacun de nous, nous devons extirper les idoles de nos cœurs pour pouvoir rester en communion avec le Seigneur. Amen. Alors, j'attaque mon sujet d'aujourd'hui, qui est comment Dieu a extirpé l'idole du cœur d'Abraham. Vous savez qu'Abraham avait une idole? Vous savez? Quelle était l'idole d'Abraham? Pardon? Oui? Vous ne saviez pas hein, qu'Abraham avait une idole? Ben je vais vous la montrer, je vous laisse un peu le suspense. Mais vous êtes sur la piste. Le principe central de la Bible, ce sont des rabbins érudits inspirés par le Saint-Esprit qui l'ont dit. Le principe central de la Bible, c'est d'extirper les idoles. Justement, de répondre à ce deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre représentation de moi. C'est le polythéisme. C'est d'empêcher de revenir au polythéisme, aux différents dieux. Dans Genèse 12, vous avez cet appel. Hein, donc, Et sachez qu'Abraham, il était dans le berceau de l'astrologie, la Mésopotamie. Hein, et Dieu l'en a extirpé pour l'envoyer en Canaan pour établir le peuple de Dieu. Donc Abraham, il a eu un appel alors qu'il était en Mésopotamie. C'est quoi cet appel? On lit, verset 1er, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens une source de bénédiction. » Ah, oh, formidable, un appel. Vous avez un appel? Vous avez tous un appel. Un appel de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est un appel extraordinaire. Amen. C'est d'entrer dans ce ciel ouvert, hein, où rien, ni quoi que ce soit, ne peut entraver notre relation avec Dieu, et surtout pas le mal. Hein, qui peut nous entraver. Abraham a été appelé par Dieu au milieu de cette idolâtrie dans laquelle il était, en disant « Tu sors de là et tu vas dans le pays que je te montrerai. » Abraham avait un rêve suite à cet appel. C'est Dieu qui a suscité un rêve dans sa vie. C'était quoi le rêve? Et pourquoi? Oui, parce que Dieu lui a dit. Oui, donc comment voulez-vous qu'Abraham n'ait pas de rêve? Sinon, il serait fou. On aurait affaire à un gars qui est désaxé. Il reçoit une promesse, tu seras la source d'une multitude de nations. Il faut avoir un enfant, et surtout un fils. Hein? Bon. Donc, c'est normal qu'il ait un rêve. Jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, après, il doit le sacrifier. Alors là, waouh! Je ne comprends plus. Vous, chacun à notre niveau, moi à mon niveau, chacun à notre niveau, nous avons à un moment donné la nécessité, si nous voulons suivre et avoir le ciel ouvert, sacrifier ce qui nous est le plus cher. Lauren Cunningham, qui a commencé jeunesse en mission, il avait un bateau en Grèce qui l'attendait, énorme, extraordinaire et tout ça, un miracle de Dieu. Au dernier moment, Dieu lui enlève. Dieu lui enlève. Il ne comprend plus rien. « Seigneur, tu m'as donné un bateau pour aller dans toutes les nations. » Il ne comprend plus. Lisez son livre. Vous avez énormément de pratiquement tous les fondements chrétiens qui sont basés là-dessus. Nous, on avait un rêve ici en 98 de ce bâtiment. Il était inauguré en 98 et patatrac, en un mois, tout était cassé. Et il a fallu complètement recommencer à zéro. Bon, c'est comme ça. Mais au travers de ça, nous, on a tout appris. On savait des choses, mais alors là, on a tout appris. Et en particulier, ce que je vous enseigne aujourd'hui. Recommencer à zéro. Dieu a besoin de nous enlever ce qui est le plus cher, notre rêve, pour éviter que cela devienne une idole. Abraham, la question qu'on peut se poser, est-ce que au moment où il a reçu l'appel, Abraham, s'est-il attaché à Dieu ou s'est-il attaché à son fils? Voilà une bonne question qui nous fait réfléchir. Est-ce qu'il s'est attaché au fils de la promesse ou à Dieu lui-même? Et c'est ça le problème. Et ça, c'est un mécanisme profond dans nos cœurs. Et c'est ce mécanisme que j'aimerais vous démontrer qu'il y a dans tous nos cœurs. Parce que comme je vous le disais la dernière fois, et je suis d'accord avec cette affirmation, que notre cœur est une fabrique d'idoles à grande échelle. Abraham a attendu longtemps. Alors c'est d'autant plus difficile pour quelqu'un qui attend longtemps un enfant. Imaginez les temps d'attente, les temps d'angoisse, les temps où des bons conseillers, vous voyez, qui disent « Ah, dis donc, tu as des promesses, hein, ça tarde. » En plus, il avait 100 ans, sa femme 99 ans. Avoir un fils et croire dans ces conditions-là, vous comprenez pourquoi il est appelé le père de la foi. Et il avait de quoi douter. Hello ? J'ai quelqu'un avec moi là, qui me suit là ? Il avait de quoi douter. Vous seriez dans cette situation. Vous avez une épreuve ? Vous pensez que cette épreuve-là, vous l'auriez passée ? À 100 ans, vous attendez encore un fils avec une femme qui a 99 et vous avez 100 ans. Ben voilà. C'était ça, le défi qu'il avait. Donc ça se comprend, Abraham n'était pas un surhomme, n'était pas un extraterrestre, c'était un humain comme vous et moi, et il a bagarré avec ça. Du coup, lorsque le fils est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait ? Tout naturellement, libération. Il a tout misé sur son fils. Mettez-vous à sa place. C'est pas un surhomme, Abraham. Il a tout misé sur cette promesse et sur ce que Dieu vient d'accomplir. Alors ? Et c'est là qu'idole commence. Voyez-vous, c'est là le problème du cœur. Le problème nous joue des tours. Le cœur nous joue des tours. Tous ses espoirs sont en lui et son cœur s'est focalisé sur son fils parce qu'il fallait le protéger, ce fils. Vous vous rendez compte, c'est l'unique. S'il tombe, s'il se casse une cheville, ça va. Mais si jamais il tombe dans un puits, vous vous rendez compte, s'il y en a qui viennent le voler et tout ça, c'est l'angoisse perpétuelle. Ce fils de la promesse, Dieu me l'a donné, il faut que je m'en occupe. Et l'idole. Elle. Hey. On s'attache à Dieu ou on s'attache au fils ? Eh oui. C'est un phénomène classique. Classique. Lié à notre nature déchue, à tout ce qui est visible. Nous, on a très peu de voisins, mais quand on est arrivé, il y avait des voisins qui construisaient en même temps que nous. Vous savez ce que c'est, on fait toute petite connaissance, tout ça. On avait les Lejeunes qui n'étaient pas très loin. Et puis, Michel a bien sympathisé avec la dame, et il avait deux fils en même temps que nous, deux fils à nous, je crois, un an d'écart. Un an d'écart, voilà. Bon, mais bon, ils se suivaient exactement. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Et elle venait régulièrement toutes les semaines chez Michel, et tout ça, avec les fils, ils jouaient ensemble. Elle n'avait qu'une obsession, c'est que leurs fils deviennent les meilleurs, qu'ils fassent polytechnique, qu'ils fassent, je ne sais pas ce qu'elle avait comme idée, mais voilà, c'est. Donc, ils voulaient les mettre à Saint-Germain, ils voulaient les mettre. Enfin, elle avait leurs fils, voilà, c'était waouh! C'était son désir le plus cher, leur donner ce qu'elle n'avait pas eu. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le mariage, ça fait longtemps qu'il a explosé. Les fils, c'est pas du tout, ils sont pas du tout arrivés là. Ça n'a rien à voir. Parce que quand vous avez une idole, vous mettez quelque chose dans une personne et vous l'idolâtrez. En fait, vous mettez un tel poids sur la personne parce qu'il y a une attente de cette personne qui est une idole aux yeux, par exemple, de la mère, à tel point que ce poids même ne peut même pas lui permettre d'arriver à ce que la mère veut. Du coup, elle perd tout. Elle a tout perdu. Et ça, c'est récurrent. C'est dans toute idole, c'est pareil. L'idole vous est cassée sur la tête. Nous, dans notre ministère, c'est combien et combien et combien de fois on a vu ça. Tous ceux qui idolâtrent quelque chose, l'idole, à un moment donné, lui est cassée sur la tête. Parce que c'est Satan qui est derrière. Et Satan, c'est le voleur, le destructeur, etc. Donc, faites attention. Parce que ce sont toujours des bonnes choses. Les idoles, c'est fait à partir de bonnes choses. C'était une bonne chose de vouloir que ses enfants réussissent. C'était une bonne chose. Mais ce n'était pas une bonne chose de les idolâtrer au point de faire ce qu'elle a fait. Hello ? Deuxième appel d'Abraham. Dans Genèse 22, verset 2. Donc, Abraham a eu deux appels. Le deuxième appel, chapitre 22, verset 2. Dieu dit, je vais lire le premier verset. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en de ton pays, va-t'en dans le pays de Morija et offre-leur en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. En fait, c'est la montagne du Temple, où aujourd'hui il y a la mosquée d'Al-Aqsa, où il y a tous ces conflits. Bon, c'est là, parce que tout le monde veut... Voilà, c'est l'idolâtrie de ce qui se passait pour Isaac avec Abraham. L'histoire continue. Deuxième appel d'Abraham. Ce fils que je t'ai donné, tu me le sacrifies. Waouh ! Vous mettez à la place une deuxième fois, Abraham, ce fils le plus cher, pour lequel je fais tout. Je consacre ma vie, je consacre tout, pour que ce fils réussisse et qu'il rentre dans la promesse. Allô ? Ne sortez pas derrière l'idolâtrie de dire « avec mes forces, je vais y arriver ». Dieu a dit non. Tu veux être le père des croyants ? C'est pas comme ça que marche la foi. Hein ? La foi ne marche pas sur nos forces. Elle marche sur la confiance en Dieu seul. Amen. Et quand on marche la confiance en Dieu seul, les tensions se libèrent. Vous voulez être déstressé ? Vous voulez être déstressé ? J'ai rien contre le fitness. Faites du fitness. Mais surtout, surtout, libérez-vous de vos idoles. Et vous n'aurez plus de stress. Plus de stress. Et vous vivrez longtemps. Longtemps. Alors ? Søren Kierkegaard, il y en a qui connaissent Kierkegaard. Bon. Søren Kierkegaard a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Il a écrit un livre. Je ne l'ai pas lu, donc je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Crainte et tremblement. Sa thèse, la thèse de Kierkegaard, c'est peut-être la vôtre, en tout cas c'était la mienne. Hein. Avec le livre que j'ai lu, j'ai quitté la thèse de Kierkegaard. Mais elle tient la route. Kierkegaard, qui a essayé de comprendre cette difficulté qui est survenue à Abraham, il a dit, Abraham ne voyait pas de sens dans ce que Dieu lui demandait. Il trouvait cela contraire à tout ce que Dieu lui avait dit. Cependant, il a obéi. Quelque part, Kierkegaard dit, la foi, il faut être bête, quoi. Enfin, il faut être, voilà. Voilà, vous ne comprenez rien, vous le faites, et puis ça marche. Alors ? Hein ? On n'est pas loin de penser ça. En tout cas, moi, j'ai adopté un peu cette thèse, sans qu'elle soit explicite, mais vous voyez, est-ce que Abraham a compris ce que Dieu lui demandait ? Il y en a qui croient qu'il a compris. Eh bien si, il a compris. Mais il faut une clé. Il faut une clé rabbinique. Il faut une clé rabbinique. Et Rabbin explique, si Kierkegaard avait tenu compte de la signification du fils premier-né et de la pensée juive et du symbolisme juif, il aurait compris. Alors je vais essayer de vous l'expliquer. Les gens à l'époque, alors ça c'est un scoop, mais vous le gardez pour vous, ils n'étaient pas individualistes. Ils vivaient en famille. Les rêves et les espoirs des gens se trouvaient jamais autour de leur succès, autour de leur prospérité, autour de leur importance personnelle. Jamais, au grand jamais, ça n'a existé à cette époque-là. Tout le monde faisait partie d'une famille. Et le fils premier-né recevait la plus grande majorité du domaine de la famille pour que cette dernière, il y avait un pour que cette dernière conserve sa place dans la société. Tous les espoirs et tous les rêves d'un homme et de sa famille reposaient sur le fils premier-né. Vous comprenez ? Ainsi, demander à quelqu'un de sacrifier son fils premier-né, le fils en plus, hein, c'est pas la fille, le fils, c'est lui qui était l'héritier. Donc, demander à quelqu'un de sacrifier le fils premier-né revenait à demander à quelqu'un de renoncer à tout ce qui lui était le plus cher et qui était lié à sa succession. Dans Exode, je vais aller vite parce que j'ai pas trop de temps, mais dans Exode 22, vous lisez chez vous, verset 29, les premiers-nés pouvaient être rachetés, donc c'est dans la loi, les premiers-nés pouvaient être rachetés par des sacrifices réguliers, un service dans le tabernacle ou un paiement de rachat. Donc vous voyez, il fallait racheter le premier-né. C'était dans la loi. Si vous aviez un premier-né, il fallait le racheter. Soit par des sacrifices réguliers, soit par des services dans le tabernacle ou par des paiements de rachat. Autre exemple. Quand Dieu punit les Égyptiens, la sanction finale, c'était de tuer les premiers-nés. Parce que la vie des premiers-nés était le prix du péché des familles ou le péché de la nation. C'était ça la signification. Tuer les premiers-nés, ça veut dire que c'était à cause du péché de la nation, donc de l'Égypte, et des familles, du Pharaon en particulier. Pourquoi ? Parce que le fils premier-né, c'était la famille. Si vous voulez, ça signifiait la famille, vous voyez ? C'est ça que ça veut dire. Quand on dit que la vie du premier-né lui appartient donc à Dieu, sauf s'il y a rachat, il faut comprendre culturellement que chaque famille a une dette envers la justice éternelle, et cette dette signifie la dette du péché. Voyez-vous, il y a une compréhension rabbinique, juive, qui fait partie de l'ancienne alliance, mais qui a été accomplie dans la nouvelle. Ça veut dire que, dans la mesure où il y a péché, nous faisons partie d'une arborescence à partir d'Adam et d'Ève, d'une lignée de péché. Donc toutes nos familles pêchent. Nous pêchons, toutes nos familles pêchent. Et Dieu voit une famille qui pêche. Et il demande un rachat pour la sauver. Donc déjà dans la loi, il y avait une dette. Au départ, on a une dette. C'est-à-dire on est avec une dette. Vous comprenez ça ? Quand on est avec une dette. On est une dette de notre famille. Et ça, les Juifs le comprenaient. Et Abraham l'a compris, si vous voulez. Vous voyez ? Parce que c'est partie de la culture. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Parce que les familles, ça n'existe plus. De plus en plus, c'est dissocié. C'est composé. On ne sait plus ce que c'est que les familles. Enfin, on va vers ce sens-là. Mais c'est fait pour. Hein. Bon, il y a quelqu'un derrière qui œuvre ça. Donc, chaque famille a une dette. Et ça, Abraham l'a compris. Si Abraham... Alors, raisonnons par l'absurde. Hein. En mathématiques, c'est ce qu'on fait quand on ne sait plus quel théorème appliquer. Raisonnons par l'absurde. Si Abraham avait entendu la voix de Dieu lui dire « Sacrifie-moi Sarah, ta femme », qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait dit « C'est absurde. Qu'est-ce que me demande Dieu ? N'importe quoi. Sacrifie ma femme. » Si Dieu lui avait demandé « Eh bien, tu prends ton fils Isaac et tu le tues dans ta tente », qu'est-ce qu'il aurait dit ? À juste raison, il aurait dit à Dieu, ben, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, raisonnons par l'absurde et comprenons que quand Dieu lui a dit, tu me feras une offrande, Abraham a tout de suite compris que c'est la dette de sa famille qu'il devait payer. Alors, je me fais comprendre, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Vous avez tous compris ? La famille a une dette au départ. Et doit quelque chose à Dieu. C'est des péchés, bien sûr, on l'a compris plus tard, hein, mais cette dette, il faut la payer. Et dans la loi de Moïse, dans la loi, donc je vous ai cité Exode 22, il est dit que systématiquement, pour le premier-né, il fallait payer quelque chose au départ, il fallait racheter, soit par les Lévites, par exemple, vous mettiez... C'est pour ça que l'Église catholique a beaucoup, beaucoup, pratiquement tout, dans les cérémonies, copié l'Ancien Testament. Et dans chez les catholiques, vous ne le savez peut-être pas, mais je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, à chaque fois je me trompe, il faut qu'il y en ait un, enfin dans la noblesse, il faut qu'il y en ait un qui soit dans l'armée, il y en ait un qui soit dans le clergé, et le troisième, je ne sais plus où, la justice. Bon, c'était une règle. On ne discutait pas. Celui qui était désigné comme étant clergé, bon, il était évêque, hein, en général, attention, bon, c'était pas des curés, donc bon, il avait tout ce qu'il faut, le confort et tout, bon, tranquille. Mais c'était une loi. Mais c'est simplement l'Ancien Testament. Sans même comprendre exactement, c'était une loi, voilà, on désigne. Mais l'Ancien Testament était prophétique. Je laisse tomber le catholicisme. Et donc, là, il y avait déjà l'idée de rachat parce qu'il y a une dette au départ. Une dette qu'il fallait payer. Et là, Abraham a compris. Quand Dieu lui a dit, tu sacrifies mon fils, tu lui apportes en offrande sur cette montagne, il a tout de suite compris que c'était la dette de sa famille qu'il fallait payer pour accomplir le... Ce qui fait que, pour faire une histoire courte, parce que j'ai pas le temps, quand il est allé sur le mont Morija, vous lirez le récit, il est allé serein. Il n'est pas allé angoissé. Imaginez-vous à sa place. Vous avez un fils. Que vous avez un rêve de toujours, en plus, qu'il accomplisse le plan de Dieu. Et ce fils, vous devez le sacrifier. Et vous le prenez et vous l'emmenez au sacrifice pour le tuer. En offrande, peut-être, mais c'est quand même un sacrifice. Même si on spiritualise les choses, c'est quand même, il faut le donner. Et que, au moment de partir, il dit à ses serviteurs, vous en faites pas, on va revenir. On va juste adorer. Vous croyez pas que ça a du sens, ça, pour Abraham? Peut-être pour nous, ça n'a pas de sens, comme Kierkegaard, on ne réfléchit pas. Mais pour lui, ça a du sens. Adorer Jésus, adorer Dieu, ça veut dire lui apporter le meilleur sacrifice qui existe, c'est le premier. Donc vous voyez, l'attitude d'Abraham, et c'est pour ça qu'il est appelé le père des croyants, il exerçait la foi dans le Dieu unique, et pas dans les dieux nombreux qui existaient à l'époque. Il aurait pu, puisqu'il a été bercé dans le berceau mésopotamien de l'astrologie. Donc, on voit ça. Et quand son fils lui demande, « Mais papa, où est-ce qu'il est l'agneau? Où est-ce qu'il est le sacrifice ?» Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Dieu pourvoira. Quelle sérénité. Vous seriez capable de dire ça à votre fils? Alors que Dieu vous a dit, tu le sacrifies. Vous dites, Dieu pourvoira. Hey, Dieu est en train d'extirper l'idole du cœur d'Abraham. Il devait être le père des croyants. C'est pas n'importe quoi. Il avait un appel. Premier appel qu'il devait accomplir. Mais le deuxième appel, Dieu l'a testé. Et Abraham a su dire, Dieu le fera. Je ne sais pas comment, mais il le fera. C'était ça, sa démarche. Abraham ne se livrait pas à un acte de foi aveugle. Il ne disait pas, je sais que Dieu est à la fois saint et plein de grâce. Dieu l'arrête au moment du sacrifice, au moment où il allait le tuer, Dieu l'arrête, au dernier moment. Sachez que c'est toujours au dernier moment que Dieu intervient. Donc, allez jusqu'au bout hein, de votre épreuve. N'arrêtez pas avant. C'est au dernier moment qu'il agit. Parce qu'il nous teste. Au dernier moment, un ange vient lui prendre et Dieu parle. Il dit, ne porte pas la main sur ton fils, car maintenant, je sais que tu révères Dieu. Je sais que tu crains Dieu. Voilà. Hey. Oui, il y a un prix à payer pour avoir le ciel ouvert. Rappelez-vous. Vous voulez un ciel ouvert? Ok. Il y a un prix à payer. C'est celui de craindre Dieu. Et le meilleur exemple de la crainte de Dieu, c'est le psaume que j'ai lu ce matin, pour ceux qui étaient là, 103, verset 4, qui n'est pas une crainte de peur, hein, pas du tout. On voit qu'Abraham, si vous relisez l'histoire, c'est pas de la peur. Mais le psaume 103, verset 4, 130, pardon, 130, verset 4, dit « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Et tout le psaume dit « Car ta bienveillance est auprès de l'Éternel, et la libération abonde auprès de lui. » C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes, verset 7 et verset 8. Tout ce psaume qui est centré sur cette notion de la crainte du Seigneur, elle se passe dans l'émerveillement de Dieu, dans l'émerveillement de sa grâce, dans l'émerveillement de sa miséricorde, dans l'émerveillement de ce qu'il fait. Vous voyez, on ne peut s'émerveiller de Dieu que quand on se tourne vers lui, seul. Dites seul. Dites seul. Dieu seul. Sachez que notre cœur est une fabrique d'idoles à grande échelle. Donc, Dieu seul, c'est difficile. Et, en principe, ce n'est que l'épreuve qui peut nous aider à identifier notre idole. Allô? Je suis dur ce matin. Dur dans le sens où vrai. C'est comme ça que ça marche. Aussi longtemps que Abraham. Le problème, c'est de dire, ben, attends, Dieu aurait pu arrêter cette histoire avant quand même, parce qu'il a bien vu. Attends, il a obéi tout de suite. De bon matin, il s'est levé. Hein. Il n'est pas attendu. Hein. 4h du matin, ou même quand c'était de bon matin, c'est juste le soleil qui s'est levé. À l'époque, s'est levé très tôt. Il s'est levé, il n'a pas discuté, il est parti, etc. L'obéissance pure, parce qu'il voulait adorer Dieu seul. Il savait que c'était à lui qu'il devait toute chose. Et donc, il était spontané dans sa démarche. Et on aurait pu dire, le Seigneur a vu, il était spontané. Pourquoi il n'a pas arrêté? Pourquoi, en cours de route, il aurait pu dire, écoute, tu sais, Dieu va pouvoir, ça ne va pas se passer, tu ne vas pas être sacrifié, tout ça. Non, il aurait pu arrêter. Il n'a pas arrêté parce que Dieu veut qu'on lui donne tout. Tout, c'est tout. Alors, et aussi longtemps que Abraham n'était pas obligé de sacrifier son fils jusqu'au bout, il ne voyait pas que l'amour pour son fils était une idolâtrie. C'est ça le problème. Parce que c'est un problème de conscience. Dieu a voulu attiser la conscience sur une réalité qui était qu'il idolâtrait son fils et il ne le savait pas. Et la plupart du temps, c'est dans notre cœur, nous idolâtrons quelque chose, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Et c'est ça qui est dramatique. Et le Seigneur, au travers de l'épreuve, nous montre où est l'idole. Alors, il y en a qui me suivent ici? Voilà. Là, j'ai pas le temps de vous donner mon expérience personnelle, mais elle serait intéressante à ce titre-là. Et la vôtre aussi. Le besoin de cette Madame Lejeune dont j'ai parlé, c'est de qui était de voir ses enfants réussir alors que c'était elle qui voulait réussir au travers d'eux, était de tout contrôler. Et ça vient d'une réticence à laisser Dieu avoir la juste place dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Voyez-vous, le problème de l'idolâtrie, c'est qu'on contrôle, parce qu'on veut que ça réussisse, on veut que ça marche, on veut que ça arrive. Et en fait, du coup, on contrôle pour que ça arrive, mais du coup, on est sous les idoles, et du coup, c'est plus Dieu qui agit, c'est d'autres choses, d'autres forces d'influence. Et à ce moment-là, eh bien, on amène un poids sur les gens, on ne les laisse pas libres, ils ne sont pas libres de devenir eux-mêmes. Je sais que dans une autre famille qu'on connaît au GBU, pratiquement sur les 5 enfants, les 4 étaient médecins. Donc le 5e, il fallait qu'il soit médecin. Pas possible. Père chirurgien, ça, médecin. Ben non, il a fait kiné. Oh là là, catastrophe. Tout juste, il n'a pas été rejeté de sa famille. Vous voyez, ben, bon, c'est nul, quoi. Ben, c'est kiné, hein, je crois. Ah, oui, un IUT, alors c'est encore pire. Voilà, il a fait un IUT, voilà. Ah là 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 là, catastrophe. Bon, ça s'est retrouvé, parce que c'est une famille superbe, bon, tout ça. Mais, oh là là, ses fratries, c'était dur. Hein. Ah, il n'a pas réussi comme c'est, hein. Il n'a pas fait médecin. Il n'est pas médecin. Vous voyez, parfois, ça ne tient pas à grand-chose. Mais lui, il est vachement épanoui. C'était peut-être pas le plus épanoui quand on le rencontrait avec sa femme, tout ça, c'était super et tout ça, enfin, on s'éclatait avec lui, quoi, hein. Il était plein de vie et tout ça. Vous voyez, mais le contrôler comme ça, non, il n'était pas fait pour médecin, il était fait pour faire une IUT, et puis alors, so what? Mais, vous voyez, nous, on a tendance à contrôler les choses parce que Dieu nous l'a dit, en plus. Alors, on spiritualise, et l'idole, elle est encore pire. Elle est encore cachée, encore plus. Alors, Abraham, sans cette épreuve, aurait pu devenir avec Isaac soit trop dur, parce qu'il aurait dit, « Ouais, tu es l'enfant de la promesse, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, etc. » Il aurait pu être dur, à juste titre. Attends, toutes les nations vont être issues d'Isaac. Il faut qu'il soit à la hauteur, ce gamin, quoi. Voilà, et avec sa femme, il aurait dit, « Non, attends, tu comprends pas, ce gamin, il va porter toutes les nations, tout ça, il faut être dur avec lui, il faut, voilà. » Et il aurait pu être dur. Ou il aurait pu être laxiste. Comme il est avec ses enfants. Ah, mais non, attends, il ne faut pas trop le chahuter, ce gamin-là. Non, non, attends, alors, il va perdre la foi. Il va, non, ceci, cela. Mais trop dur, trop lâche. C'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Parce que la racine, c'est l'idolâtrie. Alors que quand vous êtes libre, avec un grand L, libre, eh bien, vous laissez l'enfant grandir selon sa destinée. Et pas de son lot, ce que vous. Vous voulez sur sa destinée. Amen. Ça passe par un humain. Et hop, c'est fini. Et c'est déjà gâché. Laissez Dieu faire. Voilà. Mais pour ça, Dieu utilise l'épreuve pour nous extirper l'idolâtrie. Car l'idole d'Abraham serait devenue la raison d'être et la seule joie d'Abraham d'élever son fils. Au lieu de rester, que Dieu seul reste sa joie suprême jusqu'au bout. Amen. Donc, je voudrais vous lancer un défi ce matin. Regardez aux déceptions qui est dans votre cœur ou aux troubles. Parce que pour trouver l'idole, souvent, c'est la déception. Ah, mince, ça marche pas comme je veux. Déception. Trouble. Ok. Ça peut être un élément qui vous met sur la piste d'une idole. N'attendez pas la grosse épreuve, parce que ce n'est pas une règle que Dieu vous donne une grosse épreuve, surtout pour des petites choses, pour le ministère, c'est autre chose. Mais là, je parle à votre niveau. Donc, regardez aux déceptions troubles qui vous guettent, hein, qui sont au milieu de vous. Regardez et vous verrez que les plus douloureux d'entre eux touchent à vos propres Isaac. On a tous des Isaac dans nos cœurs qu'on chérit, on veut qu'ils aboutissent, on veut. Ça peut être un projet de carrière. Hein. Vous savez, maintenant les femmes sont poussées à faire des carrières. J'ai rien contre les femmes qui font des carrières. J'ai vu qui étaient brillantes. Mais généralisé comme ça, vous voyez, c'est un poids qui est posé sur les femmes qui doivent être des bonnes ménagères, des bonnes cuisinières, des bonnes carriéristes, des bonnes. Tout. Les hommes, non, ils n'ont pas besoin de faire la cuisine, tout ça. Là, ils peuvent lire Tintin, tout ça, pendant que la femme travaille. Mais les femmes, non. Il y a une grosse expectation là-dessus. Mais sachez que ça, c'est fait pour détruire la féminité. C'est fait pour détruire la féminité. Il y a une raison à ça. C'est le prince des ténèbres qui agit derrière. Donc, c'est toujours les idoles qui conduisent les choses. Donc, regardez aux déceptions troubles qui vous guettent. Regardez, vous verrez celles qui sont les plus douloureuses de vos déceptions. Elles peuvent être un élément de compréhension des idoles. Et sortez cette idole de votre cœur. Demandez pardon à Dieu. Sortez cette idole de votre cœur parce qu'elle est bien cachée. Et il faut l'extirper. Et faites comme Lauren Cunningham qui a lâché ce bateau. Et aujourd'hui, il en a, je ne sais pas combien, 3, 4, 5, je ne sais plus. Énormément de bateaux qui circulent dans le monde entier. Mais lui, il a été purifié. Et quand vous l'entendez parler, ce n'est pas le même homme. Alors, ça change une personne quand on n'a pas d'idole dans son cœur. C'est ce qui s'est passé à Abraham. Il était le père de tous les croyants. Amen. Seigneur, on te prions afin que tu nous aides, Seigneur. Tu ne veux pas nous mettre une culpabilité, mais tu veux nous placer dans la réalité de ce ciel ouvert, Seigneur, au travers duquel toutes les bénédictions sont possibles. Et Seigneur, toutes les malédictions sont jugulées. Alors Père, nous te prions ce matin afin que chacun d'entre nous, tu nous montres peut-être des choses qui nous sont frustrées, qu'on n'arrive pas à ce qu'on voudrait. Et ça peut être une idole dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à te l'apporter comme une offrande volontaire pour qu'elle puisse être sanctifiée par toi et que toi tu puisses être glorifié dans nos vies et que l'ennemi n'ait aucune prise en nous au travers de cette idole. Au nom de Jésus. Amen.